vivos en la brecha. Cágate en Dios, bébete tres, hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu de Dios, con nosotros no podrá. La puerta, escápate.
Seguimos en la brecha.
Cágate en Dios, bébete tres,
hazte otra vez la cresta.
Romperemos los esquemas.
Nosotros no podrán.
Le soleil à peine couché, l'océan se couvre de voiles qui hissent le Jolly Roger. Et malgré tout notre courage, dans un massacre surhumain,
moi, j'ai perdu mon équipage. Et je m'en vais. Versailles, adieu marquise à ruban,
et vive dans la canaille, et vive dans l'encorban. Caro noce scélérate, je sors toi, caro fou.
Et nos enfers.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et la bosse est pendant des jours.
Tu me rends la caresse d'être.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et la bosse est pendant des jours.
Quand la bonté seule en semence, tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un jeune lièvre à la Noël entre tes doigts.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. L'air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Dans cette émission, nous serons en compagnie de Pierre Hazan. Pierre Hazan a écrit un livre qui a pour titre « Faut-il accepter de négocier avec le diable ?» Point d'interrogation, la médiation dans les conflits armés. Ce livre a été publié par Textuel en 2022. Alors ce titre nous a fait tout de suite penser aux conflits récents dans lesquels la création d'un ennemi, considéré comme le diable, permet d'entretenir la guerre pour le plus grand profit des vendeurs d'armes. J'ai découvert l'interview de Pierre Hazan sur le site Thing Can View et je vais vous le faire entendre car il correspond bien à nos engagements pacifistes. L'entretien s'est tenu le 19 septembre 2022 et au début, Pierre Hazan s'est présenté.
J'ai fait des relations internationales, du droit international, des études stratégiques et puis surtout après j'ai fait 20 ans de journalisme. Et puis, par la suite, j'ai travaillé dans la médiation des conflits armés.
Vous êtes suisse ?
Je suis suisse, oui.
On embrasse Lausanne.
Et Genève aussi.
Et Genève, on les embrasse fort d'ailleurs. On vous a décidé de vous faire venir aujourd'hui parce que vous avez écrit un bon bouquin sur « Faut-il négocier avec le diable ?» et « À quoi s'expose-t-on » Et on va dire que le sujet est d'actualité. Comment, quel regard vous portez sur les processus de paix? Est-ce que c'est sain, pas sain? Est-ce que ça ne nous emmène pas vers simplement une petite couverture de résolution et le conflit couvre toujours et ne demande qu'à se réveiller à la moindre escarmouche? Comment ça se passe en ce moment, la résolution, la médiation, et faut-il encore parler au diable? Et d'ailleurs, c'est qui le diable? On est toujours le diable de quelqu'un.
C'est bien vrai, c'est bien vrai. Je crois qu'il faut remonter un tout petit peu à l'histoire, et c'est vrai que si on pense à Cicéron, il disait que les pirates sont les ennemis du genre humain. C'est-à-dire qu'à chaque période, il y a eu des diables. Si on pense au Moyen-Âge, il y avait les sorcières, il y avait les hérétiques qu'on brûlait pour purifier, soi-disant. Sous Ronald Reagan, l'empire du mal, c'était l'Union soviétique. Plus récemment, après Srebrenica, après le génocide au Rwanda, c'était les criminels de guerre, ou ceux qu'on désignait comme tels. Par la suite, après les attentats contre les tours jumelles du 11 septembre, c'est devenu les terroristes. Aujourd'hui, peut-être, c'est un mélange, et on voit, et peut-être on pourra en parler plus longuement, comment le vocabulaire a évolué, et comment peut-être pour Poutine est devenu, pour le monde occidental, la figure du diable. Et je trouve ça extraordinairement intéressant que d'un côté, il y a la notion de crime de guerre, de crime contre l'humanité, même de génocide, qui est utilisée par les deux camps, y compris et surtout par Poutine au début. Et de l'autre côté, la semaine dernière encore, les sénateurs américains, aussi bien démocrates que républicains, demandaient à ce que la Russie soit classée comme un État sponsor du terrorisme, ce que le président Biden a refusé. Et donc on voit bien comment se crée la figure du diable, comment on diabolise. Ceci dit, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des crimes horribles qui sont effectivement commis et que, Dieu merci, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait, d'une part, qu'il y en ait moins, que la justice, d'une certaine manière, évidemment, doit passer, mais que pour qu'elle puisse passer aussi, il faut laisser une place à la médiation et au dialogue.
Comment on fait pour avoir un dialogue? Comment on fait pour réconcilier des parties qui se détestent jusqu'au fond, au plus profond de leur âme? Il faut les mettre autour d'une table, éteindre la lumière et choisir qu'ils se battent dans une seule pièce pour éviter que les populations civiles en prennent plein la tête. Il faut une puissance extérieure, respecter des deux camps. Qu'est-ce qu'il faut?
Tous les cas sont absolument spécifiques et donc il y a évidemment jamais de formule, jamais, jamais, jamais. D'abord, ce qu'on constate, et on peut prendre des exemples très concrets. Pensons, tout le monde parle de Poutine aujourd'hui et la grande discussion c'est faut-il ou non discuter avec la Russie? Moi, ce que je regarde de manière très très simple, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Il y a eu un accord sur les échanges, plusieurs accords sur les échanges de prisonniers, y compris par l'intermédiaire parfois du CICR et des Nations Unies.
Ça veut dire, pour les gens qui ne savent pas,
le Comité international de la Croix-Rouge. Donc ce qui veut dire, c'est que oui, il a fallu discuter avec les deux parties. Deuxièmement, il y a eu des experts de l'AIEA, de l'Agence de l'énergie atomique, qui sont rendus à la centrale de Zaporijjia pour contrôler pour ce qui s'est passé et pour essayer en quelque sorte de limiter les dangers et l'escalade. Donc là encore, il a fallu négocier et discuter. Troisièmement, ces dernières semaines, il y a eu l'accord qui s'est produit avec la médiation turque et des Nations Unies sur les exportations de céréales et de fertilisants pour l'Ukraine et la Russie. Donc là encore, il a fallu négocier. Ce que je crois que dans, très souvent, dans la tête de beaucoup de gens, il y a l'idée qu'il faudrait qu'il y ait une sorte une table où tout le monde se mettrait autour pour un sorte de règlement final. Mais avant d'en arriver là, il y a des dizaines et dizaines d'heures d'approches, de discussions, et souvent sur des accords tout à fait ponctuels. Là, j'en ai cité trois, mais on peut prendre n'importe quel autre conflit. Et effectivement, c'est que ces accords ponctuels sont importants, parce que d'une part, ils limitent l'escalade, ils apprennent à chaque partie à mesurer les lignes rouges, à établir une sorte de grammaire, et donc tout ça participe d'une certaine manière à instaurer un dialogue minimal. Alors évidemment, si on parle maintenant de l'Ukraine et de la Russie, on est très loin du règlement. Tous les trois exemples que je vous ai cités sont des exemples périphériques. On ne touche pas le cœur du conflit. Il faut pour cela que les conditions cadres soient réunies, que l'environnement soit réuni.
Les sanctions, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne pour la résolution des conflits?
Moi, je vais vous donner un exemple tout à fait personnel. Il y a quelques années, j'ai reçu le représentant de l'administration américaine.
Quel?
C'était entre Obama et Trump. Et l'administration de Trump venait d'être en place, et cette personne était en place, mais elle avait été nommée par Obama. Et il m'explique que voilà, les États-Unis et l'Union européenne ont pris des sanctions, et que forcément le gouvernement dont il parle, et je ne peux pas citer le nom, n'existera plus d'ici 6 mois. Moi, je le regarde, je suis un peu dubitatif, et je lui dis bon, soit. Aujourd'hui, ce gouvernement est toujours en place. Mais la personne qui m'a dit ça, depuis longtemps, a rejoint le domaine privé et n'est plus du tout dans la fonction publique. Donc, je suis très sceptique sur, de manière générale, sur les sanctions. Parce que souvent, elles ont un effet contre-productif. Il y a tout le marais, toute la partie de l'opinion publique qui hésite, qui n'est pas forcément en faveur de la guerre, mais tout à coup, on la pousse souvent dans les bras des plus extrêmes parce qu'ils sont directement touchés. Alors que les gens qui sont tout au haut de la pyramide, souvent, ils mettent en place des réseaux et mettent en place des monopoles qui leur permettent de s'enrichir encore davantage. Donc souvent, c'est contre-productif.
Il faut bien faire quelque chose.
Mais en même temps, et voilà, c'est exactement le point que j'allais dire, maintenant, si on prend le cas particulier, spécifique de l'Ukraine, il y a eu une agression. Donc, forcément, il faut faire quelque chose. Et donc, les sanctions, effectivement, elles ont leur raison d'être. Encore faut-il que ce soit les sanctions les plus intelligentes possibles.
Avant la famille Tutsi, aller voir la famille Hutu, y avait pas le moindre souci, ils se faisaient des poutous. Ils se tenaient par la main, évoquaient des lendemains, parlaient du prix du manioc, prêtaient volontiers leur coque. Mais le monsieur qui vend des canons est venu leur dire non de non. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Tutsis que les Hutus se prennent pour les Manitous, et aux Hutus que les Tutsis ne rêvent que de les voir oxy. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Une Kalachnikov ou un missile rendent les femmes des ennemis dociles, d'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux, et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom. plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé, aux Serbes qu'un Kosovar, ça vaut pas un pet de canard. Il y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Avec le Coran ou l'Évangile, on obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons, sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dattes. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend les canons a dit battez-vous car sinon mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle, et bien entendu même les pucelles, qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU.
Vous avez reconnu la chanson pacifiste de Pierre Perret. Nous saluons cet artiste qui, à 87 ans et après 60 ans de carrière, continue à s'engager pour des causes justes. Nous entendrons d'ailleurs dans cette émission d'autres chansons de Pierre Perret. Et nous reprenons maintenant l'entretien du journaliste et écrivain Pierre Hazan au sujet de son livre « Faut-il accepter de négocier avec le diable ? La médiation dans les conflits armés ». Alors je rappelle que Pierre Hazan est interviewé par le journaliste du site Finkenview.
La guerre, c'est quelque chose de profondément horrible, de profondément dramatique, et donc tout ce qui peut être utilisé pour limiter la souffrance des populations doit être fait. Je vous donne des exemples tout à fait concrets. Un certain nombre, parlons de groupes armés, disons particulièrement, je pense à l'organisation de l'État islamique. C'est tout sauf des enfants de cœur, on est bien d'accord. Alors, la question, je trouvais intéressant que, effectivement, un certain nombre d'organisations humanitaires doivent parler avec ces groupes, hein, pour atteindre finalement, pour pouvoir donner, pour avoir accès à des populations et pour pouvoir leur distribuer de l'aide humanitaire. Donc si vous voulez, la question du dialogue me paraît essentielle. La question fondamentale, c'est rester sur une ligne de crête, pas déborder la ligne de crête. Parce que d'un côté, vous devez parler avec des bad guys, et encore, j'étais frappé par ce qu'a dit le pape il y a quelques jours à peine. Il a dit, il faut parler avec les agresseurs, il veut vous parler, y compris avec les agresseurs, même quand ça pue. Et ça pue. Et souvent ça pue. Mais ceci dit, la question c'est, effectivement, il faut parler, mais il faut avoir un objectif clair et rester sur cette ligne de crête en disant, on va faire du bien et on va pas tomber du côté de la compromission ou de la complicité. Or, parfois, la marge est très fine. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Et par exemple, dans le livre, je donne plusieurs exemples qui m'ont marqué très, très profondément. Je vais peut-être vous parler d'une histoire qui a peut-être été un peu le déclencheur de ce livre et qui remonte à près de 30 ans en réalité. Voilà, je suis journaliste à ce moment-là. Je ne travaille pas du tout dans la médiation des conflits armés. Je suis intégré à une équipe d'humanitaire. Et cette équipe d'humanitaire reçoit un mandat très, très particulier. Alors, grande surprise, c'est que on doit aller dans un camp particulièrement horrible où il y a 2000 hommes qui sont maltraités, un certain nombre d'entre eux ont été tués.
Quel pays ?
En Bosnie-Herzégovine. Et une négociation qui s'est passée à très haut niveau fait que cette équipe d'humanitaire doit choisir de libérer un tiers des 2000 hommes. Ces 2000 hommes sont dans une sorte d'ancien entrepôt de la GNE, donc l'armée yougoslave, et vivent dans des conditions infectes. Ils ont tous perdu entre 20, 30 kilos ou plus. Et donc, la question se pose pour nous, comment choisir ? Et donc, vous connaissez le film, le livre Le Choix de Sophie. Et donc, on se trouvait presque dans cette situation absolument horrible, en tout cas tragique, de devoir choisir entre des gens, entre ceux qui seraient libérés et ceux qui resteraient dans cette prison-là. Et donc, il y avait un médecin parmi nous qui a dit « Ben, je veux pas être un docteur Mengele. » Et donc, il faut agir de la manière la plus rationnelle possible. Et la manière la plus rationnelle possible, ça a été de faire ce qu'il appelait un body mass index. C'est-à-dire qu'on est allé avec des balances, des mètres, on a mis une petite table au milieu du camp et par équipe de trois, on se relayait.
C'est horrible.
Et on a mesuré pendant des jours et pesé pendant des jours tous ces 2000 prisonniers pour établir une liste en disant, voilà, le ratio des plus faibles, c'est ceux-là. Donc on se disait, on est du bon côté, on a fait la chose la plus juste possible. Et c'est à ce moment-là, précisément, que j'ai compris ce que c'est qu'une guerre civile. Parce que il y avait un type qui était en charge des échanges de prisonniers. Et lui, il avait identifié les prisonniers qui avaient de la valeur et ceux qui n'avaient pas de la valeur.
En quel terme la valeur ?
La valeur monétaire. C'est-à-dire que qui a de la famille à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, et qui peut envoyer de l'argent pour le libérer, ou pour faire un échange avec l'autre côté, ou un grade assez haut. Et donc il avait sa propre liste de ceux dont il voulait se débarrasser parce qu'il les trouvait qu'ils n'avaient pas de valeur en fait. Et donc on était liste contre liste, et le front était à une dizaine de kilomètres, et on entendait que ça tirait, en fait. Donc, et c'est là où j'ai vraiment senti quelque chose. Oui, le sentiment de jusqu'où faut-il aller. Et cette équipe d'humanitaires, c'est presque scindé en deux, en fait. Il y avait une partie qui disait, on ne peut pas négocier sur la peau des gens. Il est prêt à libérer 700 personnes sur les 2000, on les prend, on les sauve. Et celui qui était en charge du droit disait non, il faut tenir sur le principe. Parce que si on lâche ici, eh bien on lâchera toujours. Donc il faut tenir bon. Donc on a eu un conflit interne à cette organisation humanitaire, en plein milieu du camp, sur cette question-là. Et c'est là où j'ai véritablement compris à quel point c'est difficile de tenir sur la ligne de crête. Qu'est-ce que c'est la bonne décision? Jusqu'où vous pouvez aller? Donc la question, c'est à ce moment-là que la question de la complicité m'a aussi fait beaucoup réfléchir. Est-ce que, par exemple, en Bosnie-Herzégovine, ou plus tard en Syrie, est-ce que, face à des dictateurs, face à des hommes qui veulent déplacer des populations.
Qui torture, qui viole.
Oui, mais je reviens sur la question qui torture et qui viole et tout ça. Mais je reviens sur cette question du déplacement forcé des populations, ce qu'on appelle le nettoyage ethnique. Est-ce que, d'un côté, c'est un crime de guerre? C'est évident que c'est un crime de guerre. La question pour une partie tierce, hein, qui est humanitaire ou qui fait de la médiation, c'est est-ce que faut-il ou non, d'une certaine manière, les aider à humaniser ce processus qui est un processus criminel pour qu'il y ait moins de gens qui souffrent durant ce processus, ou pas. Donc vous voyez à quel point c'est compliqué. Et donc je prétends pas venir avec des solutions toutes faites, il n'y en a pas. Mais ce qui me semblait important, c'est de poser les problèmes, c'est d'inciter à la réflexion, c'est de susciter une discussion interne, une conversation interne, au sein même parfois des organisations, pour savoir comment on gère ces questions-là. Parce que il y a beaucoup de gris. Et donc on est dans le brouillard de la guerre, parfois dans le brouillard de la paix aussi, ou de la recherche de la paix. Et donc il faut cheminer dans ce processus-là.
Qu'est-ce qui gêne les processus de paix? C'est les bellicistes des plateaux télé, c'est le manque d'appropriation du sujet des populations civiles, c'est les gens qui tirent un peu les ficelles à gauche comme à droite. Qu'est-ce qui gêne le travail des humanitaires, en dehors des belligérants même?
En dehors des belligérants, Écoutez, je sais pas, je pense que... Enfin, l'image que j'ai en tête, c'est d'avoir une porte avec une dizaine de serrures. Et cette dizaine de serrures, il faut pour qu'une médiation marche, il faut que les 10 serrures ouvrent en même temps, en fait. C'est pour ça que c'est si compliqué. Il faut que ça soit le bon timing, les bons interlocuteurs, que le sang a suffisamment coulé et que les gens en ont marre et que même à haut niveau, qu'il y ait une pression de la société, des gens qui souffrent, qui s'exercent, qu'il y ait un compromis qui soit mauvais pour les deux parties d'une certaine manière. Après, évidemment, il y a les intervenants extérieurs. Et c'est vrai qu'on peut prendre un certain nombre de situations tout à fait concrètes et que des guerres civiles deviennent des guerres civiles internationalisées. Si on parlait de la Syrie, par exemple, à un certain moment, il y avait d'un côté le gouvernement avec les milices qu'il avait générées ou qu'il soutenait ou qu'il payait. Et de l'autre côté, il y avait... Plus d'une centaine de groupes armés, plus les Russes, plus les Américains, plus les Turcs, plus XXXX. Et d'ailleurs, on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans un conflit. Vous aviez la guerre en Syrie, et en même temps, pour éviter des confrontations entre les puissances extérieures, vous avez les Russes qui ont signé simultanément un accord de non-confrontation avec les Américains, un deuxième avec les Turcs et un troisième avec les Israéliens. Alors vous pouvez le constater, lorsque les Israéliens frappent le Hezbollah en Syrie, eh bien les Russes n'interviennent pas, ils laissent faire. Donc vous voyez aujourd'hui comment on n'est plus du tout dans les conflits presque d'antan où il y avait un nombre limité d'acteurs. Là, on est souvent dans des processus extraordinairement problématiques où le ticket d'entrée d'abord devient de moins en moins cher pour des groupes armés pour se constituer, avec les réseaux sociaux, une caisse de propagande absolument immense, et puis des intervenants extérieurs de plus en plus nombreux, sans parler du rôle de la diaspora et d'autres choses aussi. Donc vous voyez à quel point ça devient compliqué. On le voit en Syrie, mais on le voit au Mali aujourd'hui, on le voit partout en fait.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétin lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'écrivain Pierre Hazan au sujet de son livre « Faut-il accepter de négocier avec le diable la médiation dans les conflits armés ?» Alors je rappelle que Pierre Hazan est interviewé par le journaliste du site Think and View.
Le début, ben d'abord c'est la déshumanisation, c'est la guerre culturelle. C'est-à-dire c'est les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qui participe à travailler les opinions publiques à travers les sociétés, travailler sur le sentiment d'être victime, le sentiment d'humiliation. Et dans chaque peuple, le sentiment d'humiliation existe finalement. Et donc plus on travaille ça, plus on génère des sentiments, plus on génère des émotions, plus on fait monter une sorte de passion, et de passion froide ou de passion chaude et haineuse en fait. Et c'est ça qui devient très très compliqué après à démêler, parce qu'une fois qu'elle est montée, une fois que le sang commence à couler, eh bien effectivement on arrive à des situations de plus en plus complexes et de plus en plus tragiques. Après, la question du droit. En fait, il y a eu une révolution juridique dans les années 90. Une révolution juridique absolument étonnante. Tout à coup, en 93, il y a eu l'idée d'avoir, en même temps que la guerre, la justice internationale. C'est une idée qui est neuve et assez surprenante. Parce que traditionnellement, il y a le temps de la guerre, il y a le temps de la paix, et puis parfois il y a la justice, un petit peu. Et donc moi j'étais fasciné par ça quand dans les années 90. Et donc je voulais comprendre, et donc après la Bosnie, après le Rwanda, quand j'ai vu tous ces procès, ces commissions vérité qui se mettaient en place, ces procès, ces tribunaux pénaux internationaux qui se mettaient en place, j'étais vraiment fasciné. Et donc, surtout après couvert tous ces conflits, je me suis dit je vais essayer de mieux comprendre. Et donc j'ai trouvé un ministre français
qui s'appelait
Feu Roland Dumas, qui était le porteur de la résolution 808 et 827 du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Ces deux résolutions ont quelque part changé l'histoire du droit international, puisqu'elles ont établi le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc, en 98.
On a le droit de ça ici.
On a le droit. Vous parlez suisse aussi. Je vais trouver Roland Dumas. Je lui dis, quand même, vous avez fait un truc quand même totalement étonnant. 1993, résolution 808-827, création du TPY. 1994, génocide au Rwanda, résolution 955 qui établit le Tribunal pénal international pour le Rwanda. 1998, statut de Rome, processus de la création de la Cour pénale internationale. Donc finalement, vous êtes à l'origine d'une révolution juridique. Et je le dis avec énormément de naïveté. Et il me regarde avec un petit sourire. Et il me dit, mais non, pas du tout. Moi j'avais un autre problème. Moi j'avais très peur. La France, j'avais très peur que Mitterrand et moi, on soit un jour accusés d'être complices des crimes commis par les bosno-serbes. Alors, quand Roland Dumas est venu vers moi avec cette idée un peu idéaliste de tribunal pénal international, je me suis dit, formidable. D'un côté, on met une épée de Damoclès sur les belligérants, on leur fait peur. Et comme ça, ils vont peut-être se calmer et commettre moins de crimes. Mais surtout, on aura un bouclier. Et comme ça, on ne va jamais nous reprocher quoi que ce soit, puisque c'est nous-mêmes qui avons porté la résolution qui créait le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Moi, je suis complètement scié. Et donc, je lui demande de répéter. Et il répète. Et donc, j'ai bien entendu, quoi. Et donc, quelque part, je suis là Du coup, je rebondis, je dis, ah, c'est pour ça que la France n'a jamais collaboré avant Chirac avec le TPY. Il me dit, oui, évidemment. Et donc, je suis effaré par le cynisme, évidemment. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était, il y a tellement de leçons à tirer de ça. D'un côté, il y a un homme qui cherche un objectif essentiel. Il veut que ça soit, serve aussi pour comme une épée de Damoclès, bien. Même s'il n'en donne pas les moyens. Mais en même temps, Roland Dumas un jour quitte les affaires. Mais le tribunal pénal international va continuer à exister. Donc même si un tribunal est créé de manière cynique, de manière politisée, peut-être il a une véritable valeur ensuite. Et c'est ça qui est très surprenant. Et donc presque réconfortant moralement. Après, on voit que durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, le tribunal n'a pas véritablement fonctionné. Il a pratiquement rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Le tribunal est créé officiellement en 1993. Srebrenica, c'est quand? 2 ans plus tard. C'est-à-dire que le tribunal, qui était censé avoir un effet préventif, il en a eu zéro. En tout cas pour la Bosnie-Herzégovine. Donc, tout ça...
Il faut rappeler, c'est un massacre... 8000,
c'est un massacre organisé de manière systématique de 8000 hommes d'adolescents de plus de 16 ans dans une enclave qui est une enclave des Nations Unies, protégée par les Nations Unies, où les Nations Unies ont garanti la vie de ceux qui vivent à l'intérieur. Mais les Nations Unies n'interviennent pas. Les forces bosno-serbes arrivent, séparent les hommes des femmes et finalement tuent 8000 hommes. Les fosses communes sont trouvées et tout ça. Et finalement, un certain nombre de gens qui ont soit ordonné ces crimes, soit commis directement, c'est je parle des gens qui ont pointé et qui ont tiré, comme Erdemovic et d'autres, hein, seront effectivement condamnés.
Donc, ils sont condamnés à quoi? 7 ans? Combien?
Ça dépend alors, il y a toute une échelle. Alors, il y a un cas qui est particulièrement intéressant.
Celui qui était les trois nationalités, c'est ça?
C'est Dražen Erdemović. L'histoire de Dražen Erdemović, c'est que Dražen Erdemović, il a le mauvais âge, il a 20 ans. Il vient de se marier, sa fiancée est enceinte. Lui, il est une famille lambda, c'est-à-dire comme pratiquement toutes les familles, c'est-à-dire multiraciale, multiethnique. Lui est d'origine croate, sa femme est d'origine serbe, et ils vivent à Sarajevo. Et comme ils vivent à Sarajevo, pendant 10 jours, on lui colle un uniforme bosniaque. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est se tirer. Donc, il va finir par se tirer. Et il veut aller en Suisse. Donc, il va passer par Herceg-Bosnac, par la partie croate. Et là, on lui colle un deuxième uniforme. Et là aussi, il va s'en défaire pour continuer son chemin, qui passe par la République Srpska, la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et là, on lui colle un troisième uniforme. Et là, c'est Srebrenica, 6 juillet 95. Il fait partie du peloton d'exécution. Il sera épris de remords, il parlera à une journaliste américaine et il parviendra à sortir de Bosnie-Herzégovine et de Serbie et finalement arrivera à La Haye. Et lui avouera ses crimes et ses remords, donc très très rapidement, dès 96, en fait.
Il explique ça pourquoi, il le fait pourquoi. Pourquoi il témoigne?
Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que, à un certain moment, il veut pas tirer. Et l'officier lui dit, tu choisis. Ou tu vas de l'autre côté, ou tu restes de ce côté et tu tires. Mais tu choisis. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on sait, de manière documentée, c'est que les chauffeurs qui amenaient les prisonniers qui allaient être exécutés avaient l'obligation de tuer un seul prisonnier. De manière, presque dans un système mafieux, si vous voulez, pour en faire des complices du crime qui était en train d'être commis. Donc, Donc voilà. Ce qui m'a aussi frappé, si on est sur cette histoire-là, il se fait que par le plus grand des hasards, des années plus tard, je suis à Sarajevo. Bien, enfin, dans les années 2000, la guerre est finie depuis une dizaine d'années, donc tout ça est très vieux, en fait. Et, par le plus grand des hasards, là, il juge, dans le tribunal hybride, la chambre des crimes de guerre de Bosnie-Herzégovine, il juge 6 autres personnes qui faisaient partie d'un peloton d'exécution. Et donc, j'assiste à ce procès. Et ce qui me frappe le plus, c'est que je suis venu avec un interprète et on est les seuls. On est les seuls dans les rangs du public. Il n'y a personne. Ce n'est pas filmé. Personne ne voit cette justice en train d'être rendue. La question, c'était le rôle de la justice internationale. Donc, à la fois, elle me paraît essentielle, parce que la lutte contre l'impunité est essentielle. En même temps, force est de constater qu'il faut des conditions politiques et de sécurité minimales pour que cette justice puisse passer. Il y a quelques mois, en Centrafrique, il y a un homme qui est ministre actuellement, qui est le ministre de l'élevage. Et je crois qu'il s'appelle... Je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire son nom parce que je vais me tromper. Et donc, la gendarmerie a été l'arrêter parce qu'il est accusé par le tribunal spécial de la République centrafricaine, qui est un tribunal hybride, donc semi-international, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il a été mis en prison. Et quelques jours plus tard, il a été libéré par une décision politique. Il a été réinstallé dans son rôle de ministre et il a été décoré par le chef de l'État. Ce qui veut dire, c'était l'un des responsables d'un des groupes armés les plus puissants du pays. Ce qui veut dire en décodé, c'est que la justice a aussi son tempo et parfois, pour des raisons de stabilité, pour des raisons de sécurité, elle ne peut pas passer tout de suite. Moralement, c'est très problématique. C'est très problématique de voir...
Pour les victimes.
C'est très problématique pour les victimes. C'est presque la perpétuation du crime qui est en train d'être commis, surtout qu'on a des proches qui sont morts, qu'on soi-même on a été torturé. Je veux dire, c'est comme si on vous crache à la figure. Ça veut dire que c'est pire que ça, quoi. Donc, c'est extraordinairement problématique. Alors, ce que je trouve très intéressant pour moi et qui est un exemple que très riche, c'est l'Argentine. L'Argentine, vous avez eu 30 000 disparus. 83, retour de la démocratie, Alfonsine au pouvoir, il décide de juger un certain nombre de chefs de la junte. Les procès ont lieu, et puis il veut s'attaquer aux autres, à tous ceux qui sont responsables de la torture et de ces dizaines de milliers de morts. Mais l'armée commence à se crisper, et on risque un nouveau coup d'État. Et donc, finalement, la démocratie, le gouvernement démocratique décide par prudence d'arrêter, parce que les menaces sont vraiment sérieuses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à la place, il y a une commission vérité qui se met en place, qui va faire la vérité sur les disparus. Et ça donne, c'est déjà la vérité et un des éléments de la justice. C'est pas le seul, mais c'en est un. Et puis, le temps passe, il y a des réparations qui seront données par la suite. C'est un deuxième élément qui est constitutif de la justice. Et puis les années passent, et puis les équilibres politiques changent. Et puis finalement, la société d'Argentine change aussi. Et finalement, la Cour suprême, dans un autre climat, décide de réouvrir sur le dossier des disparus, puisque c'est un crime continu, de réouvrir tous ces dossiers. Et aujourd'hui, l'Argentine est le pays qui a le plus jugé de tortionnaires. En d'autres termes, pendant un certain nombre d'années, il y avait une loi d'amnistie. Mais il se fait que dès que ça a été possible... Eh bien, cette loi d'amnistie a été cassée. Et donc, le plus vite qu'elle soit cassée, le plus vite que les victimes, en quelque sorte, ont une petite satisfaction. Mais par rapport à ce qui leur est arrivé, qu'est-ce que c'est? Et donc, ce qu'on voit aussi, et vous avez raison d'insister là-dessus, c'est le rôle de la société civile. Parce que ces mères, ces grands-mères de la place de Mai, parce qu'elles étaient toujours là, parce que d'une manière constante, elles ont demandé des explications au gouvernement. Elles ont fait finalement suffisamment de pression avec le reste de la société civile, avec les pressions extérieures, qui finalement, avec la guerre des Malouines, c'est la guerre des Malouines qui a fait finalement tomber les généraux et qui a amené un nouveau gouvernement et qui a finalement amené à ce qu'un peu de justice soit rendue.
Moi je vis ma vie sans inhibition, sans complexe ni dépression. Je n'écoute la fille de la météo que lorsqu'elle me dit qu'il fait beau. Mais je tends l'oreille aux infos que j'aborde si j'apprends qu'un salaud est mort. Et je m'émerveille de ces petits plus qui pour moi font briller Phébus. Un dealer se fiche sous un autobus, je vide d'une bouteille de pétrus. 6 Milosevic a un infarctus, une minute de soleil en plus. Un enfant qui pleure, adieu ma gaieté, au contraire je suis enchanté. Qu'un général meure d'une jolie gangrène, au bras qui tenait la gégène. Y a que les hypocrites qui pleurent sur le sort d'un salopard quand il est mort. Moi les parasites de la société, je trouve qu'ils ont trop de santé. Les fachos s'étripent au plus haut niveau, même si ça pollue le caniveau. Si le gros porc zigouille l'immonde fœtus, une minute de soleil en plus. Kadhafi s'étrangle d'un os de mouton, j'adopte le fils du mouton. S'il imite son père au prochain méchoui, il met Ben Laden au tapis. Un poseur de bombes se la prend dans les dents, ça lui économise un cure-dent. Si un pédophile la prend dans l'anus, une minute de soleil en plus. Pour celui qui tabasse sa femme ou son chien, un petit cancer me paraît bien. Pinochet trépasse, des proches diraient ça, je reprends deux fois de la pizza. Moi je vis ma vie sans inhibition, sans complexe ni dépression. Je n'écoute la fille de la météo que lorsqu'elle me dit qu'il fait beau.
Et nous reprenons maintenant l'entretien du journaliste et écrivain Pierre Hazan au sujet de son livre « Faut-il accepter de négocier avec le diable ? La médiation dans les conflits armés ». Alors je rappelle que Pierre Hazan est interviewé par le journaliste du site Finkenview.
Quand on voit la guerre des Malouines, la France fournissait des missiles Exocet. Quand on voit qu'il y a des marchands d'armes d'autres puissances derrière qui fournissent à des dictateurs ou à des pouvoirs peu recommandables des armes, comment on fait pour nager au milieu de ça alors que il y a du business derrière d'armes? Est-ce qu'il faudrait pas l'interdire? Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre la question est informulable, je dirais.
D'abord, enfin disons, la première chose qui me vient à l'esprit. C'est le Rwanda. C'est-à-dire qu'avec des machettes, on peut tuer près d'un million de personnes en 3 mois. Donc la question de la violence et de la cruauté appartient sans doute à l'espèce humaine malheureusement. Alors évidemment, avec une machette, on peut tuer quelques hommes à la fois, enfin disons successivement, alors qu'avec une bombe nucléaire, on en tue beaucoup d'un coup. Donc effectivement, ces questions-là se posent. Mais tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les budgets de la défense explosent dans tous les pays, parce que tout le monde se réarme, parce que le fond de l'air est mauvais, parce que effectivement, on est rentré dans une nouvelle configuration. Pendant une vingtaine d'années, on a vécu la Pax Americana, un monde unipolaire sous hégémonie américaine. Et aujourd'hui, on est dans un autre monde, avec des puissances montantes, avec le déclin de l'Occident, avec la montée de la Chine, du Pakistan, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil, de l'Iran, de la Turquie, d'Israël, etc., etc.
Tous ces pays, ils reconnaissent le TPI ou pas?
Non, Non. La Cour pénale internationale, c'est à peu près 120 pays, 130 pays qui ont ratifié ces statuts. Mais toutes les grandes puissances, à l'exception de la France et de la Grande-Bretagne, les trois autres membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, les États-Unis et la Russie, se sont bien gardés de le signer. La Cour pénale internationale ne doit pas devenir le bras armé de l'OTAN. Point barre. C'est aussi simple que ça. Et si on refait un peu l'histoire reculons de la Cour pénale internationale, on voit que c'était les sociétés civiles africaines qui voulaient la Cour pénale internationale parce qu'elles n'avaient pas confiance dans leur propre justice. Malheureusement, la Cour pénale internationale n'a jugé que des Africains et donc elle n'a fait qu'une partie très sélective de son travail.
Un soldat qui obéit aux ordres d'abattre des civils est-il coupable ?
Le soldat est évidemment coupable de crimes de guerre. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce qu'il y a eu une chaîne de commandement ? Il y a eu un cas, si vous voulez, assez, je pense un cas très précis en fait. Il y a eu un soldat égyptien qui était sur la frontière au Sinaï et qui a tué des civils, des touristes israéliens. L'Égypte n'était pas en guerre avec Israël, c'était un soldat qui simplement a pété les plombs, quoi. Donc c'est quelque chose de totalement différent quand il y a une chaîne de commandement où il y a des ordres qui ont été donnés. Donc après, la question qui se pose, est-ce que c'est une attaque systématique ou est-ce que c'est une troupe particulière, etc., etc. Et voir jusqu'où monte le degré de la chaîne de commandement. Et ensuite, quels ont été les processus qui ont été mis en place. Une fois que le crime a été commis, est-ce qu'il y a eu une ouverture d'une enquête ou pas par l'armée en question? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été réprimandés? Quelle a été l'attitude des officiers, etc., etc. Ce qui, je trouve, très inquiétant aujourd'hui, c'est la privatisation de la guerre. Je veux dire qu'aujourd'hui, enfin, les Britanniques avaient une longue tradition qui remonte presque au 19e siècle où ils ont utilisé notamment des Népalais pour un certain nombre.
Des Gurkhas, non?
Des Gurkhas, exactement. Vous parlez à un Suisse d'ailleurs, la question du mercenariat n'est pas nouveau, vous le savez bien. Mais ce au quoi on assiste aujourd'hui, c'est aussi bien dans les pays occidentaux aux États-Unis, c'est qu'un nombre très important de gens qui portent des uniformes sont employés par des sociétés militaires privées. Et on a vu notamment en Irak, pour venir à l'Irak, très souvent c'était des soldats employés par des sociétés militaires privées qui avaient commis des exactions et qui n'avaient pas, en fait, la question qui se posait était une question de droit aussi, c'est-à-dire à qui ils étaient responsables, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de chaîne de commandement comme dans une armée classique. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des guidelines qui ont été élaborés pour essayer de mettre un peu de droit dans ces guerres qui sont de plus en plus privatisées. On le voit très très bien aussi avec Wagner, que ça soit en Ukraine ou que ça soit
en Afrique, au
Mali par exemple. Ça fait penser presque au titre du bouquin, quoi, négocier avec le diable, et surtout comment on crée des diables. Et c'est vrai qu'après le 11 septembre, on a créé cette image effectivement du terroriste. Alors je dis pas, il y a eu 3000 morts, il s'agit pas de faire du négationnisme ici en aucune manière. Les attentats du 11 septembre ont eu lieu, c'était particulièrement horrible, etc., etc. Mais c'est vrai que par la suite, il y a eu une volonté presque de revanche et de diabolisation de ces groupes armés djihadistes et dont les membres, même sur simple suspicion. Merci, ont été parfois torturés, et en particulier à Abu Ghraib. Tout à l'heure, on parlait des différentes négociations qui ont eu lieu en Ukraine, les trois qui ont eu lieu, sur les céréales. Vous savez l'accord sur les céréales doit durer 120 jours, en théorie uniquement. En plus, il peut être cassé n'importe quand. Donc la question, effectivement, c'est qu'est-ce qui va se passer à ces précis 120 jours. Donc l'une des choses, c'est on peut espérer une renégociation pour le prolonger. Que les échanges de prisonniers continuent. qui est de plus en plus d'accord pour essayer d'empêcher l'escalade avec le nucléaire, de protéger les centrales nucléaires beaucoup mieux, d'enlever les armes lourdes. Donc essayez après d'identifier des points très précis où vous pouvez intervenir tant que les deux parties ne sont pas prêtes à entamer une discussion de fond sur le règlement du conflit. Visiblement, aujourd'hui, on est dans l'escalade. On n'est pas dans la désescalade. On est encore dans des gradations et on voit comment les discours évoluent, et on voit comment les armes évoluent et tout ça est terriblement inquiétant. Mais je crois que le rôle de chaque processus de paix est de faire le mapping le plus complet possible et de voir effectivement quels sont les points très précis d'intervention. Parfois, ça peut être restituer des corps. Parfois, c'est des choses assez limitées. Mais pour les gens qui en voient le bénéfice, c'est énorme. Maintenant, on est rentré dans une autre séquence. Et cette autre séquence, c'est un monde multipolaire, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fragmenté, où on n'est pas d'accord sur les normes, on n'est pas d'accord sur les valeurs. Et donc, effectivement, on est rentré dans un monde beaucoup, beaucoup plus dangereux. Et donc, les accords, ce seront souvent des accords transactionnels. Et l'accord sur le blé, par exemple, est un accord transactionnel. Donc, ça va, il faut éviter une famine en Afrique, c'est super important. Il y a et l'Ukraine et la Russie qui vont avoir un peu de devises qui vont rentrer. Eh bien, il faut s'en féliciter. Des gens vont éviter de mourir parce qu'il y a eu cet accord.
Le peuple africain, depuis des années, c'est par des coquins qu'il est gouverné. Tous ces potentats, tous ces petits pourris, on sait bien pourquoi ils viennent à Paris. Le peuple affamé n'a même pas l'odeur du blé empoché par tous ces voleurs. Hormis les nanas de ces dictateurs, personne n'en voit jamais la couleur. Merci Mobutu, merci Kabila, merci Mugabe, autre Bokassa. Mais le plus dégourdi, c'était Kadhafi, le seul qui est planté sa tente à Paris. Le peuple africain, depuis des années, c'est par les coquins qu'il est gouverné. L'or, le manganèse, platine et rubis se transforment à l'aise en Maserati. Les mines de phosphate, l'or et les pierreries font miauler les chattes de tous ces bandits. Le rire de ces belles, elles contrepoison des cris des rebelles au fond des prisons. Merci Mobutu et toi Kabila et l'anthropophage, l'empereur Bokassa. Celui qui sacra roi des charlatans, c'est un Auvergnat qui aimait les diamants. Le peuple africain, depuis des années, c'est par les coquins qu'il est gouverné. Mais quand trop de rage vous anéantit, faut trouver le courage de fuir le pays. Le cimetière marin, les copains de Lily savaient pas très bien que c'est en Italie. Ils ont vu la plage mais jamais le visa. Ils apprirent la nage à Lampedusa. Salut les tyrans, fabricants de rêves, en baratinant vos peuples qui en crèvent. Bravo les champions, mais souvenez-vous bien que les révolutions, c'est pas pour les chiens.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pactem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson récente de Pierre Perret, qui s'intitule « Le peuple africain ». Cette chanson fait partie du dernier album de Pierre Perret, intitulé « Vieille carcasse ». Et nous continuons avec l'entretien de l'écrivain Pierre Azan au sujet de son livre « Faut-il accepter de négocier avec le diable la médiation dans les conflits armés ?» Je rappelle qu'il est interviewé par le journaliste du site Finkenview.
Au Sahel, d'abord, la situation est très grave. Et il faut se remettre un peu dans la séquence des événements. D'abord, nous avons ce qui se passe en Libye. Il y a l'intervention de l'OTAN en Libye.
Et qui a... Sous quelle résolution, quel droit international, qu'est-ce qui s'est passé? On apporte la démocratie pour les petites filles encore. On va protéger des populations. On est censé maîtriser l'espace aérien.
Vous m'emmenez très loin, mais ok. La résolution, c'est la seule fois qu'elle a été utilisée. Et après, les Russes vont la bloquer sans doute pour toujours. C'est la responsabilité de protéger. C'est-à-dire que si on fait un retour en arrière, il y a eu pendant les années 90, après notamment la Bosnie et le Rwanda, il y a eu tout un processus de réflexion en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise?
Que les populations civiles soient massacrées.
Exactement. Et donc, il y a eu, en France, il y avait toute la question du droit d'ingérence. Et finalement, le droit d'ingérence a été complètement retourné et mis sur ses pieds ou sur sa tête, je ne sais pas exactement, et pour créer un autre concept qui est la responsabilité de protéger. C'est-à-dire que les États ont la responsabilité de protéger leur propre population. Mais maintenant, s'ils ne le font pas, s'ils même attaquent leur population, alors à ce moment-là, la communauté internationale a un devoir de solidarité à l'égard des populations et donc peut intervenir, mais en dernier ressort. C'est donc ça le concept de la RTOPI, la responsabilité de protéger. Et donc elle a été utilisée. Il y a donc une résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Medvedev a accepté. Il est président à ce moment-là, c'est pas Poutine. Poutine est premier ministre. Medvedev a accepté même de dire aux Chinois, on s'abstient ce coup-là. Ça a l'air très sérieux ce qui se passe en Libye. Et tout à coup, donc, intervention de l'OTAN. Et finalement, les Russes et les Chinois ont l'impression de s'être fait avoir. Puisque, en fait, ils assistent à un changement de régime. Et pas tellement à une responsabilité de protéger d'une population qui n'a plus besoin d'être protégée à ce moment-là. Et donc, le régime tombe. Et ce qui aura des incidences énormes en Syrie avec la responsabilité protégée puisqu'elle ne sera plus jamais utilisée. Mais maintenant, pour parler du Sahel, ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'armement considérable de Kadhafi va essaimer dans tout le Sahel et donc va alimenter les groupes armés. 2012, vous avez une alliance entre les indépendantistes du Nord Mali qui veulent créer l'Azawad. Et ce sera la cinquième rébellion des Touaregs avec des djihadistes qui commencent à prendre Kidal, Gao, Tombouctou. Intervention française et vous connaissez la suite.
Je connais surtout le proverbe du Sud Mali qui dit, pour reprocher à l'Azawad, quand tu te couches avec le diable, le lendemain matin, tu sens encore le diable. Ils ont jamais pardonné les accords de l'Azawad, des Touaregs, avec Al-Qaïda. Jamais.
Non, tout à fait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, c'est plusieurs phénomènes qui se surajoutent. C'est pour ça que c'est si compliqué, si grave. D'une part, vous avez, premier facteur, c'est toutes ces armes qui étaient en Libye, qui ont essaimé dans toute la région. Deuxième facteur, vous avez très peu de ressources, c'est des pays super pauvres. Mais vous avez une démographie qui est énorme, la plus haute de la planète. Vous avez au Niger 7,3 enfants par femme. C'est-à-dire qu'une femme qui a 20 ans au Niger aujourd'hui a déjà 5 enfants. Au Mali, vous avez 6,8 enfants de moyenne par femme. Donc une croissance démographique très importante qui provoque une tension très très forte sur les ressources. Ensuite, vous avez évidemment les groupes islamistes qui limitent les terres par leur intervention les terres arables. Et vous avez des États qui sont où la mauvaise gouvernance prime et souvent dans les zones périphériques.
On peut dire corruption. Hein.
On peut dire ça. Les biens comme l'éducation, la santé, etc. Non, dans les zones périphériques n'existent pas. Donc vous avez finalement tous les facteurs pour créer des tensions entre des communautés qui sont rivales et qui se battent pour très très peu de ressources finalement. Et vous avez en gros, pour simplifier à l'extrême, deux types de communautés. Vous avez les communautés qui sont semi-nomades et qui sont essentiellement des éleveurs, comme les Peuls. Et de l'autre côté, vous avez des communautés qui sont sédentaires et qui sont des cultivateurs. Et donc, avec en plus le changement climatique, les traditionnels couloirs de transhumance sont remis en question. Et donc, vous avez en fait des centaines de conflits aujourd'hui dans la bande sahélienne entre les différentes communautés qui se disputent effectivement l'accès aux ressources, l'accès aux puits, l'accès aux couloirs, l'accès aux terres arables. Et donc, d'un côté, vous avez un premier conflit entre les groupes djihadistes et l'État. Et puis, en dessous, mais instrumentalisé et par l'État et par les groupes djihadistes, vous avez des dizaines, des centaines de conflits armés entre communautés qui chacune créent leur milice pour s'autodéfendre. C'est-à-dire que la médiation, le dialogue font partie aussi des cultures sahéliennes. Et donc, je travaille pour une organisation, notamment...
Ça s'appelle comment ?
Le Centre pour le dialogue humanitaire, qui avec ses équipes uniquement locales, j'insiste sur le mot uniquement locales, qui a participé à faire une cinquantaine d'accords de paix ou de prévention de conflits entre des communautés au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Mauritanie. Et donc, je pense que à petite échelle, c'est possible de stabiliser certaines zones géographiques et de trouver des moyens d'entente sur la répartition des ressources, parce que c'est vraiment ça. Et donc, dès que vous arrivez un peu à stabiliser, et parfois ces processus de dialogue, c'est 300 personnes qui, pendant des jours, discutent entre eux. C'est-à-dire c'est un dialogue sahélien selon les us et coutumes locales. Et donc, finalement, il y a des processus... Et après, il y a un comité de suivi qui se met en place. Et donc, ça permet de stabiliser, de manière modeste, de manière humble, certaines zones géographiques entre différentes communautés. Tout ça est formidablement fragile, je suis le premier à le dire. Mais au moins ça existe. Ça veut dire que oui, il y a quand même des choses qui sont possibles. Après, c'est dans quelle mesure ces choses qui sont possibles, on peut arriver à une plus grande échelle. Et on voit un discours qui évolue. Pendant très longtemps, le discours des gouvernements sahéliens, notamment poussé par la France, mais aussi par...
C'est pas une erreur, ça. Est-ce qu'il faut pas laisser les pays africains régler leurs problèmes, arrêter de les pousser à gauche, à droite, ou leur donner x, y, plus... Est-ce que l'Afrique est pas suffisamment mature pour régler ses problèmes ?
Mais l'exemple des médiations, même si c'est une organisation qu'il fait, qui est occidentale, en fait, c'est tous les gens qui travaillent sur ces processus-là sont tous des Sahéliens. Donc c'est des gens locaux qui parlent aux leurs. Donc c'était des solutions africaines pour des problèmes africains. Oui, tout à fait. Et on voit comment, pendant très longtemps, les pays occidentaux, mais aussi les gouvernements locaux, ont mis tout l'accent sur la lutte antiterroriste. Donc on voit aujourd'hui une évolution, alors qui n'est pas synchrone. Au Mali, il y a eu deux coups d'État récemment. Au Burkina Faso, il y a eu un nouveau coup d'État. Donc on ne sait pas. Donc on voit comment ces pays aujourd'hui, ces sociétés, sont elles-mêmes partagées en trois modèles de société pour faire court. D'un côté, vous avez le modèle autoritaire à l'égyptienne, en fait. De l'autre côté, vous avez le modèle libéral hérité de la colonisation. Et troisièmement, vous avez le modèle, en gros, salafiste, théocratique. Donc, ces sociétés, aujourd'hui, sont tiraillées entre... Les populations sont tiraillées entre ces trois modèles de société. Et les gouvernements, à différents moments, font différents choix. Et depuis 2018, on voit qu'à certains moments, certains gouvernements ont tendu la main à certains groupes armés salafistes. Et puis ça a avancé, ça n'a pas avancé, et on voit aussi, non pas tellement en France, mais plutôt à Bruxelles et même aux Nations Unies, puisque le secrétaire général des Nations Unies a dit que certains groupes armés avaient vocation à devenir des organisations politiques. Et donc on voit comment le discours est en train de changer, parce que finalement, ces groupes armés, depuis que la lutte antiterroriste, soi-disant, devait les éradiquer, Guterres, le patron de l'ONU, a une bonne idée, c'est de dire, quand il y a le Covid, la pandémie, Il dit, ben, proclamons un cessez-le-feu mondial. Ça s'est pas passé. Mais ceci dit, il y a eu un certain nombre de... dans plusieurs pays, je pense notamment à la Centrafrique, au Soudan, à la Colombie, où l'État et le gouvernement ont décidé de trêve. Ils n'ont pas voulu l'appeler cessez-le-feu, parce que souvent, cessez-le-feu donne une légitimité, mais ils l'ont appelé trêve. Mais les armes se sont tues de manière à ce que pouvoir vacciner des populations dans des zones en conflit. Donc, vous voyez, je veux dire, de manière très super concrète, je crois qu'il ne faut pas essayer de rêver à une sorte de paix mondiale ou de monde idéal. Il faut revenir sur le plancher des vaches et essayer de manière très concrète d'identifier les problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Je crois que ça s'arrête là. Et donc, si on peut faire quelque chose, faisons-le.
Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. On lui a fait des églises pour calmer son courroux, courroux, coucou. Des temples et des mecs, ou des femmes et des mecs, l'honneur est à genoux. Parmi tous ces mordus, ces millions de fanas, toutes ces brebis, il y a ceux qui adorent Jésus, ceux qui préfèrent Allah, d'autres leurs canaries. Si t'es athée, c'est tu, pour ces gars t'es foutu, turlututu. Ils disent que tu te gourres et que Dieu est amour, et après ils te tuent. On brûle à les sorciers, les homos sans papier, les francs-maçons. Et même on fit becter à de pauvres lions, Blandine et les garçons. Le bon roi Saint-Louis massacra les harkis jusqu'à Tunis, puis revint sous le gui mettre l'étoile aux juifs et rendre l'injustice. Charles IX le cateau offrit au parpaillot au nom de Dieu. La Saint-Barthélemy, les Irlandais depuis n'ont pas fait beaucoup mieux. Monsieur Christophe Colomb, qu'il vendredi n'aimait que le poisson, grilla au chalumeau tous les Géronimos qui mangeaient du bison. Pas de préservatif, dit le souverain pontife au nom de Dieu. Et cette manière sage de réduire le chômage en fit un homme heureux. Il y a ces fous de Dieu qui, au nom de la vertu, chapeau pointu, égorgent bravement des femmes et des enfants en lisant le Coran. Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. Si ce Dieu juste et bon n'envoie ses oraisons qu'à des tueurs, doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Est toujours la meilleure.
Est-ce que on va vers une guerre civile? Est-ce que c'est les prémices d'une guerre civile?
Oui, c'est les prémices d'une guerre civile. C'est-à-dire que dès qu'on considère que le dialogue est rompu, que l'autre n'est pas un adversaire, mais un ennemi, on rentre dans un processus graduel de déshumanisation. L'autre est simplement l'ennemi qu'il va falloir un jour abattre. Et donc c'est ça qui est terrifiant. Et on le voit bien, ce processus, quand il se met en place, c'est un processus qui a sa propre logique et par glissement successif. On glisse, et puis un jour,
on passe à l'acte.
On passe à l'acte, et puis il y a tellement de rancœur accumulée, et puis on a le feu d'artifice. Moi, ce qui m'a le plus... qui a été le déclencheur du bouquin, finalement, c'était de réaliser que quand je couvrais les conflits, Je me disais, je veux être dans l'éthique de conviction. Je veux dire, je veux être au plus près de ce que je vois pour faire le moins d'erreurs possible. Personne n'est parfait, et évidemment, moi non plus. Et donc, essayons d'être le plus juste possible, sachant qu'il y aura la marge d'erreur, évidemment. Mais il y avait un côté assez confortable. Et après, à travers notamment l'histoire du camp dont on a parlé tout à l'heure, tout à coup, quand vous sentez que vous rentrez dans une sorte, vous n'êtes plus dans l'éthique de conviction, vous rentrez dans l'éthique de responsabilité. Les choses sont plus si, vous rentrez dans le gris. Et c'est ça qui est super difficile. C'est que finalement, vous êtes sur cette ligne de crête et que vous ne devez pas verser. Et que c'est si facile de verser d'un côté ou de l'autre. Et donc, pour moi, c'était ça qui a été... Et donc, j'ai voulu prendre des exemples super concrets. Que ça soit la Syrie, que ça soit les Balkans, que ça soit d'autres situations encore, où je me disais, voilà, une situation super compliquée, comment on peut être le plus juste possible et choisir le moindre mot, finalement, le moindre mal. Parce que finalement, à la fin, c'est ça, quoi. Je dirais que il faut voir les médiations et les processus de paix comme des choses, comment dire, en anglais, incremental, des choses qui se font petit à petit. Il faut pas voir du tout ou rien. Et chaque pas qui va dans la bonne direction, ce n'est pas utile parce que vous construisez avec l'autre, vous réapprenez, en fait. Et vous aidez chaque partie aussi à quelque part débloquer une sorte d'espace mental, de réfléchir sur véritablement quelles sont ces lignes rouges. Parce que souvent, ce qui m'a frappé le plus, et pour moi c'est un des grands moments dans un processus de facilitation, quand vous êtes surtout avec une seule partie, la personne vous dit « je veux ça ». Et j'ai dit « d'accord ». Mais pourquoi tu le veux véritablement ? Et vous l'obligez à élaborer.
À verbaliser,
à élaborer davantage. Et là, vous comprenez que peut-être il y a des marges de manœuvre ici ou là, que peut-être que quand il dit ça, peut-être c'était un peu autre chose qu'il voulait vraiment dire. Et donc, tout ce processus, disons, de clarification des lignes rouges, des véritables lignes rouges, des véritables intérêts, en soi, c'est un processus absolument, je trouve, intellectuellement fascinant, mais aussi porteur de transformation. Et donc, j'essaie de toujours réfléchir en termes de transformation. Qu'est-ce qu'on peut transformer pour essayer de bouger d'un millimètre, finalement, les lignes?
Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable?
Ouais, aimer et désirer, c'est tout. Ça suffit.
Pierre Hazan, merci.
Merci à vous, surtout.
À la fin de notre émission, nous tenons à remercier le journaliste du site FinkenView qui nous a permis d'écouter l'écrivain Pierre Hazan. Et nous recommandons bien sûr de lire le livre de Pierre Hazan qui s'intitule « Faut-il accepter de négocier avec le diable la médiation dans les conflits armés ?» Et nous terminons notre émission avec une autre chanson de Pierre Perret. Pierre Perret qui revient sur les dangers de la guerre civile. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Sait-on pourquoi un matin cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, qu'elle a tous émerveillés en proclamant partout haut et fort, nous mettrons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe, on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond, Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimée. c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crache le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu, la bête est revenue.
Boucler ses frontières sur un morceau d'hiver, sur un coin de Liban. Sur un coin de Liban.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle n'a pas d'âme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune. Près d'un mari cousu de thune. Froide et la plus chaude des blondes. Près d'un mari à tête ronde. Près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir. Les hommes ils aiment les femmes à hommes. Les femmes elles aiment les hommes à femmes. Au paradis y a plus de flammes. Au paradis s'en vont les âmes. Alors elles crèvent d'ennui et se rappellent toutes les folies qu'elles auraient pu se payer sur terre. Elles rêvent à la fermeture éclair qu'elles remontent à d'un air si fier. Elles rêvent des divans profonds entrevus dans les garçonnières. Mon Dieu, pourquoi fiche des manières. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard pour tordre son mouchoir. Les hommes ils aiment les femmes à hommes. Les femmes elles aiment les hommes à femmes. Certains curés tombent les dames. Même parfois les nonnes s'enflamment pour d'abominables hommes des plages qui les entraînent à la nage. Amours aquatiques et sauvages. Faites la vie d'âmes honnêtes. Quatre ridettes et nonnettes. Brunes ou blondes, mazouronnes, vous êtes sur la map monde pour faire plaisir à tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard pour mordre son mouchoir.
Black body swinging in the sun. southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui démarre aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale, qui sera un peu plus longue que d'habitude, puisqu'on va avoir l'antenne en direct pendant une heure et demie. Et on a aujourd'hui le très très grand plaisir et l'honneur d'accueillir Loïc Seri, qui est le directeur du centre de recherche de l'Institut du Tout-Monde, consacré notamment à la promotion de l'œuvre d'un très grand écrivain antillais qui s'appelle Édouard Glissant, et qui est Loïc Seri, l'auteur d'une espèce d'œuvre assez inclassable qui est paru aux éditions du Tout-Monde, c'est l'an dernier, me semble-t-il, ou il y a en 2020. Donc c'est assez récent, consacré à l'œuvre de Glissant. Ça s'appelle Édouard Glissant, une traversée de l'esclavage. Donc il y a actuellement deux tomes qui sont disponibles. Le premier tome est intitulé Rassembler les mémoires, le deuxième Renverser les gouffres. C'est un livre assez hors norme. Alors je le dis d'emblée parce qu'il est c'est une mine d'informations absolument incroyable. Loïc Seri est sans doute un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Glissant aujourd'hui. Mais dans ce livre, il n'y a pas que ça. Il y a d'une part une présentation de l'œuvre de Glissant extrêmement précise, extrêmement informée, mais aussi tout un tas de pistes de lecture.